Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphin.
On parle souvent de la crise migratoire, mais assez peu de la manière dont la crise sanitaire a été traitée par l'Union européenne. À moins d'un mois des élections au Parlement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est toujours en butte à un scandale, le Pfizer-gate ou le SMS-gate, qui ternit son image, pose la question de l'opacité de certaines décisions importantes et de la difficulté de faire émerger des contre-pouvoirs au sein de l'institution de l'Union européenne. Vous avez pu observer, si vous écoutez tous les matins, que je parle assez peu de la question de la vaccination, assez clivante et sur laquelle je ne souhaite pas nécessairement diviser tous ceux qui nous écoutent. Reste qu'il y a certains sujets à aborder de manière un petit peu frontale ou directe pour comprendre comment fonctionnent les institutions européennes. Charles-Maxence Laillet est journaliste, spécialiste des questions scientifiques de santé et d'environnement. Il a été l'assistant parlementaire de Michel Rivasi au Parlement européen au sein du groupe des Verts. Michel Rivasi, il faut s'en souvenir, nous a quittés en novembre dernier à l'âge de 70 ans. Elle était normalienne, biologiste et elle s'était illustrée après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. Elle avait alors créé un laboratoire indépendant, le CRIRAD, qui mettait en cause la version officielle que les autorités françaises donnaient de la contamination radioactive des sols. On se souvient du fameux nuage de Tchernobyl qui ne passait pas la frontière à Strasbourg. Elle a publié un atlas complet de cette contamination qui fait référence. En 1997, elle est élue députée de la Drôme. Elle intègre l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et elle signe alors un rapport sur les déchets nucléaires. Et puis Michel Rivasi, en 2009, est élue députée européenne. Elle s'intéresse aux liens entre la santé et l'industrie. Elle s'implique dans la crise sanitaire H1N1. On est donc plus de 10 ans avant le Covid. Et donc, quand survient la crise du Covid, les États membres de l'Union européenne essaient de définir une stratégie, de piloter. Ils mandatent alors la Commission de Bruxelles pour un achat groupé de vaccins. La Commission met en place un groupe de négociation, pour moitié de hauts fonctionnaires européens, pour moitié d'experts nommés par les États membres. C'est l'Agence européenne du médicament qui passe alors 11 contrats avec 8 fabricants de vaccins. Oui, mais voilà, le laboratoire Pfizer bénéficie de 3 contrats volumineux et toute la controverse repose sur le 3e contrat dont le New York Times évoque les modalités en avril 2021. Charles-Maxence Laillet retrace les principales étapes de cette histoire qui, au bout du compte, vise la gouvernance d'Ursula von der Leyen, hypothèque sa reconduction à la tête de l'UE si elle devait se représenter et surtout pose le problème de l'influence des partis politiques en termes de contre-pouvoir au sein des institutions européennes.
Le grand témoin, Louis Dauphren.
Bonjour Charles-Maxence Laillet.
Bonjour Louis, bonjour à tout le monde.
Expliquez-nous comment ça s'est passé.
En juin 2020, quand on a une stratégie de réponse à la pandémie qui émerge, de mémoire elle est peut-être sortie en avril, enfin en tout cas on est 2-3 mois après la pandémie Covid, le début de la pandémie Covid, on est au sortir de la deuxième phase de confinement, il y a cette idée que la Commission européenne, en tout cas, il y a une seule option qui est retenue, c'est la vaccination. Se décident les modalités de comment on fait pour se procurer le plus vite possible des vaccins, le plus vite possible étant que, sur le papier, les vaccins, on ne les a pas encore. Donc ça veut dire que pour garantir l'approvisionnement en vaccins, on part sur l'idée de faire des achats à l'avance. Et pour amorcer la pompe, on verse des arts, on verse l'équivalent de subventions qui vont être non remboursables si les vaccins qui seront produits le moment venu, qui seront disponibles au moment venu, ne remplissent pas leurs promesses d'efficacité. Donc on a comme ça toute une salve entre août et décembre 2020, toute une salve de contrats signés avec les différents labos pharma, qui sont tous, il y avait à l'époque peut-être une soixantaine de vaccins en cours de développement anti-Covid. Hein. Et donc il y a eu 11 contrats qui ont été signés entre juin 2020 et décembre 2021, avec 8 fabricants de vaccins. Et avec cette logique où il y a une subvention qui est versée de plusieurs centaines de millions d'euros en amont.
À chacun des laboratoires.
À chacun des laboratoires.
Qui a été choisi.
Exactement. Et c'est cette somme qui va être versée à la signature du contrat. C'est soit une avance par rapport au vaccin qu'on va acheter, soit une subvention non remboursable si la recherche et développement ne donnera rien. C'est ce que Sanofi a fait, par exemple. Sanofi, finalement, ils ont abandonné la production du vaccin à un moment donné, mais ils avaient quand même reçu les 200 ou 300 millions d'euros qui leur avaient été fournis par l'argent européen pour pouvoir possiblement fabriquer un vaccin qui répondait à la menace.
Bon, mais Charles-Maxence Laillet, jusque-là, en fait, il n'y a pas de quoi s'offusquer de la situation.
Exactement, tout à fait.
Et donc, on se présume que Michel Rivasi ne s'en offusquait pas.
Exact, tout à fait. Ce que Michel Rivasi a demandé, elle a été la première à le demander dès juillet 2020, et elle l'a répété à nouveau quand on a eu les premières auditions en septembre 2020 avec les fabricants de vaccins, les auditions au sein du Parlement européen, c'était la transparence et l'accès à l'information. Qu'est-ce que contiennent les contrats en matière de responsabilité? C'est-à-dire, s'il y a des effets indésirables, s'il y a des victimes collatérales de la vaccination, qui sera responsable? responsable? Est-ce que c'est la Commission européenne? Est-ce que c'est les États membres? Ou est-ce que ce sera le fabricant du produit? Normalement, c'est le fabricant qui doit être responsable de la qualité de son produit. Il se trouve que là, ces contrats-là, parce qu'on sait ce qu'il y a dedans, même si on ne les a pas eus officiellement aujourd'hui, et on les a eus officieusement, il y a eu des fuites par l'Italie, par d'autres pays, par d'autres ONG, on a eu des fuites de ces contrats, mais officiellement aujourd'hui, les contrats d'achat anticipé de 2020 et 2021 n'ont pas été rendus publics par la Commission. Ce qui a été rendu public par la Commission, ça a été des contrats qui étaient largement biffés et surlignés en noir, ce qui fait qu'on ne voyait rien de ce qui était marqué dans certaines clauses. Ce qu'on a vu dans certains contrats, c'est que s'il y a des actions en justice qui sont entamées, c'est l'État qui va rembourser les frais de justice qu'auront à subir les entreprises. Ça veut dire que l'État paye trois fois le vaccin. Il le paye quand il l'achète, y compris avec l'avance qui est versée. Il le paye pour rembourser les entreprises qui pourraient être condamnées à des pénalités ou à des indemnisations s'il y a des actions en justice. Et le dernier point, c'est aussi les États qui payent les indemnisations via l'ONIAM, par exemple, en France. Et ce qu'on a comme retour depuis un an et demi, c'est que c'est la croix et la bannière. Déjà qu'on est victime et qu'on souffre au quotidien, c'est extrêmement compliqué d'obtenir une réparation, ou en tout cas un paiement de la part de l'État, une reconnaissance par l'ONIAM de son État. Et donc, ce que Michel Rivasi pouvait dire, c'est que ce modèle-là, ce montage-là, ça met l'État en juge et partie, parce qu'il n'a pas intérêt à devoir payer. Il est à la fois responsable en amont et responsable en aval. Ces contrats intègrent une irresponsabilité. Et si vous voulez, on n'est pas en train de dire que les entreprises ne sont pas responsables. On est en train de dire que s'il y a des actions en justice, les entreprises seront remboursées par les États. C'est le contribuable qui paye, qui continue à payer ce qui se passe.
À quel moment Ursula von der Leyen et Pfizer entrent-ils en scène?
Alors, ce qui se passe, c'est que sur ces contrats, on a 11 contrats qui ont été signés, qui concernent 8 fabricants. Ça veut donc dire que certains fabricants ont plusieurs contrats. Et en l'occurrence, c'est Pfizer qui en tire, qui en remporte la majeure partie. C'est-à-dire que, en termes de valeur globale, parce que ce n'est pas exactement ce qui a été payé en réel, mais en termes de valeur de ce que ça représente, ces contrats pesaient pour 71 milliards d'euros de valeur globale, une valeur hypothétique. Hein. Et ça comptait pour 4,6 milliards de doses de vaccins. On est 400 millions dans l'Union européenne. Donc il y avait 4,5 milliards de doses de vaccins qui étaient précommandées. Si on paye l'ensemble de ces doses, ça fait tel montant. Dans les faits, sur ces 71 milliards de valeur globale qui a été signée, 44 milliards étaient pour Pfizer. Et sur les milliards de doses, on est à 2,8 milliards de doses qui sont des commandes spécifiques à Pfizer. C'est vraiment Pfizer qui, dans les faits, a représenté 90% ou 80% des doses de vaccins qui ont été fournies à l'Europe et que Pfizer continue à souhaiter être payé pour ces doses. Puisqu'on a aujourd'hui, la crise Covid devient du souvenir et donc l'engagement à payer tous les ans et à s'engager à commander tous les ans des vaccins qui ne sont pas utilisés parce que la menace n'est plus là ou parce que la population ne s'en sert pas, on a des pays européens qui montent au créneau, des pays membres de l'UE qui montent au créneau pour dire pas d'accord, on a autre chose à faire avec l'argent public.
Et donc, qui cessent de payer ?
Qui ont indiqué qu'ils souhaitaient cesser de payer, quoi, bien sûr. Donc là, on a des actions de justice de la part, par exemple, de la Pologne ou de la Hongrie qui souhaitent casser le contrat pour ne pas devoir payer. Et on a Pfizer qui les attaque en justice pour continuer à les obliger à payer.
À faire respecter le contrat.
À faire respecter le contrat.
Mais en quoi Ursula von der Leyen a-t-elle des choses à se reprocher?
Alors,
selon
ce qui se passe, c'est qu'il y a eu, spécifiquement dans les contrats entre l'Union européenne et Pfizer, il y a eu trois séries de contrats. Puisqu'en fait, chacun de ces contrats, pour les 11 contrats, et notamment sur les premiers, hein, bien sûr, la première série des 6 ou 7 contrats avec les premiers fabricants, chacun de ces contrats, on avait des commandes fermes et des commandes en option. Avec Pfizer, il y a eu un troisième contrat qui a été signé, qui était un contrat le plus important en termes de volume. Et surtout, on a eu une augmentation du prix des doses au sein de ce contrat. C'est-à-dire que dans le troisième contrat, l'Union européenne payait les doses de vaccins Pfizer plus cher que ce qu'elles ont été achetées dans les premiers contrats, où on achetait des quantités moins importantes de vaccins. Donc c'est un peu surprenant comme modalité. Et en fait, il apparaît que sur ce troisième contrat, c'est un article du New York Times qui allume la mèche en avril 2021. L'info sort qu'il y a eu un échange de SMS entre Albert Bourla, le boss de Pfizer, et Ursula, où se sont discutées directement les modalités de ce contrat par SMS. Sauf que là, ça vient court-circuiter le groupe de négociation qui avait été mis en place. Discuter des prix, des modalités, des quantités du vaccin, ça n'est pas dans les prérogatives, ça ne fait pas partie des pouvoirs d'Ursula von der Leyen. Elle court-circuite sa propre équipe, et surtout, dans ce cas-là, ces documents-là doivent être publics. Donc, on a des députés qui tapent du poing sur la table, de tous bords politiques. Michel Rivasi, bien sûr, du côté des Verts, qui ne lâche pas l'affaire. Et ça fait le début de cette affaire du SMS Gate d'Ursula, où on a notamment un journaliste allemand qui demande à la Commission d'avoir accès à ces SMS. La Commission répond qu'elle ne les a pas, voire même qu'ils ont été détruits parce qu'on considère que c'est des SMS et donc des documents électroniques un peu évanescents qui peuvent tout à fait ne pas être conservés. Donc, suite à l'épuisement des recours, le journaliste en question, qui s'appelle Alexander Fanta, qui fait partie de collectifs de journalistes qui font des articles pour dénoncer, pour relater ce qui se déroule en termes de conflits d'intérêts ou de magouilles politico-financières à l'échelle européenne, saisit la médiatrice de l'Union européenne. La médiatrice, la conclusion de son enquête et des échanges qu'elle a avec la Commission, c'est qu'il y a eu mauvaise administration de la part de la Commission européenne dans la gestion de ces SMS. Elle demande donc à la Commission de rendre public ces SMS. En parallèle, on a aussi la Cour des comptes européenne qui a fait un rapport. De mémoire, c'est le 19/2022. Ce rapport de la Cour des comptes que j'invite chacun à consulter, c'est un rapport dédié aux conditions de négociation des contrats Covid. Et donc, il y a beaucoup de détails à l'intérieur. Et quelque part, au fin fond d'une page, en alinéa corps 8, tout en bas en italique, il y a marqué que sur tel contrat, la Commission n'a pas fourni les documents. Et ce contrat, c'est le fameux troisième contrat. C'est le contrat avec des quantités de doses très importantes, plus de 2 milliards, et avec le prix le plus élevé. Et c'est le seul contrat où la Commission n'a pas fourni les documents. Et même dans l'histoire de la Cour des comptes européenne, c'est la première fois que la Commission a refusé de fournir des documents. Ces documents, ça correspond à des documents préliminaires de négociation de l'appel d'offres ou de négociation pré-contrat. C'est-à-dire qu'il y a les autres documents, mais les documents préliminaires n'y sont pas, alors que les documents préliminaires ont été fournis par la Commission pour les autres contrats, avec les autres fabricants.
Donc il y a une opacité avérée.
Il y a un truc qui est... Voilà. Et ce qui se passe, c'est que la Cour des comptes avait dans cette situation-là, elle avait le droit de saisir la justice pour obtenir ces documents que la Commission refusait de lui fournir. Et elle ne l'a pas fait. Alors, est-ce que c'est parce que le président de la Cour des comptes est du même groupe politique, le PPE, que Ursula ? C'est une question ouverte.
Est-ce qu'elle s'est justifiée, Ursula von der Leyen ?
Elle n'a jamais pris la parole sur le sujet. Lorsque des journalistes lui tendent le micro, cherchent à la croiser dans un couloir pour lui poser la question face à face, elle tourne la tête, elle continue à marcher, elle garde le silence. On est dans une tactique délibérée qui est que ça ne fait pas partie de sa réalité. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. C'est l'attitude, en tout cas, qui est donnée. Et c'est une attitude qui, du coup, fait le lit des personnes les plus complotistes ou des personnes les plus radicalisées par rapport à l'Union européenne et par rapport à ce climat d'opacité, ce climat de corruption, ce climat de trafic d'influence qui se déroulerait au plus haut niveau. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est que ça concerne l'argent public. Et à ce titre-là, Michel Rivasi, elle ne lâchait rien. Et de son point de vue, la confiance a besoin de transparence pour pouvoir s'exercer. Si on n'a pas la transparence, et s'il y a une volonté délibérée de cacher les choses, que ce soit au nom du secret des affaires ou pour d'autres raisons, eh bien, ça fabrique de la défiance. Et on a progressivement la cote de popularité des institutions qui s'effondre. Et ça devient un peu, pardon, excusez-moi l'expression, mais c'est parce qu'on risque de la réutiliser à nouveau après, ça devient un peu le bordel.
Charles-Maxence Layet, que faudrait-il changer ? Qu'est-ce que ça dit de l'Union européenne, de son fonctionnement, de son rôle ? Est-ce qu'on peut faire en sorte que la chose ne se reproduise pas ?
Alors, faut sans doute mettre le débat sur un autre niveau. C'est qu'en fait, la situation à laquelle on est confronté, malheureusement, c'est qu'on a les contre-pouvoirs des institutions européennes entre elles ne fonctionnent pas. Elles se protègent les unes les autres pour éviter de faire des vagues. Pour éviter que ça tâche, quoi. Et donc, c'est ça le problème auquel on est confronté. C'est-à-dire qu'on a une séparation des pouvoirs qui est prévue au niveau des textes, au moins, en tout cas, une répartition des missions entre ce que fait le Conseil européen, c'est les États membres. Ce que fait la Commission européenne, c'est en gros le gouvernement, l'administration, c'est eux qui ont le pouvoir d'initiative pour sortir des textes législatifs, et ainsi de suite. Et le Parlement européen, qui a à la fois peu de pouvoir et qui est à la fois le seul à avoir un pouvoir légitime, puisqu'il est élu par le même jour, en plus. C'est vraiment super. Et à la proportionnelle, on apprécie, par les citoyens européens. Et ce pouvoir, et les pouvoirs fondamentaux du Parlement européen sont des pouvoirs de nomination et de contrôle. De nomination, c'est-à-dire que la Commission européenne ne peut pas être nommée si le Parlement européen ne vote pas en sa faveur. D'abord pour le président ou la présidente, et ensuite pour les commissaires européens. Donc c'est en juillet de chaque mandat, donc là ça va être juillet 2024, qu'on va avoir comme ça une course à l'échalote, une danse du ventre pour le vote par les nouveaux députés de la nouvelle présidente ou président de la Commission européenne. Et ensuite, on a les capitales européennes qui présentent des candidats commissaires. Il y a beaucoup de tractations en coulisses, beaucoup de diplomatie, pour arriver avec des auditions en septembre où les commissaires candidats en fonction de leur thématique, santé, transport, défense, commerce, agriculture, vont être auditionnés par les commissions parlementaires respectives, et les commissions parlementaires disent bon pour nous, pas bon pour nous. Et ça arrive, on l'a vu déjà sur les deux dernières mandatures, qu'il y ait des commissaires candidats qui sont récusés par le Parlement européen, et donc ça fait un nouveau tour de chaise pour que en novembre, on ait une commission européenne en place et qui satisfasse les États membres. Rien ne se décide en Europe sans l'accord des États membres. Ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête, tant au niveau du Conseil européen qu'au niveau, bien sûr, du quotidien, ceux qui ont les cordons de la bourse, en gros, et aussi au sein des comités techniques de la Commission européenne, ceux qui fixent les règles, les normes, les machins. On est à chaque fois sur des processus proportionnels, on est à chaque fois sur des processus où il y a toujours 27 représentants. Et donc, ce qui fait que ça soit pour des comités techniques qui concernent les pesticides, des comités techniques qui concernent les télécoms, ou des comités techniques qui peuvent concerner l'immigration ou autre chose. Tout à l'heure, on parlait de l'Agence des médicaments, qui est donc une instance à part, hein, c'est une agence indépendante, elle ne fait pas partie de l'organigramme de la Commission, elle fait partie comme ça des agences qui ont été créées par la législation européenne. On a à chaque fois un comité d'experts de 27 personnes représentant les États membres qui prennent ensemble une décision. Ce qui fait que, par exemple, pour en revenir à la pharmacovigilance, on peut avoir des États, par exemple l'Autriche ou alors la Suède ou la Finlande, qui vont donner l'alerte, y compris les autorités françaises d'ailleurs, qui peuvent donner l'alerte à leur échelle sur un signal de toxicité ou d'effet indésirable grave lié à la prise d'un médicament. Et après, ça remonte à l'échelle de l'EMA, de l'Agence européenne des médicaments, qui gère aussi la pharmacovigilance. Et ce comité des 27 de pharmacovigilance va décider si oui ou non le signal est avéré ou fondé.
Donc en soi, c'est extrêmement démocratique.
Oui, mais sauf que c'est noyauté par les lobbies. C'est-à-dire qu'on va avoir plutôt la tendance, plutôt que de considérer les signaux faibles et de chercher à construire à partir de ceci, on va plutôt, pour éviter que ça dérange le business, pour éviter que ça fasse des vagues et pour continuer en business as usual, comme on dit, on va avoir tendance à dire non, non, mais en fait, là, ok, en fait, le signal n'est pas significatif statistiquement parlant et ça ne remet pas en cause le bénéfice-risque. Ça permet de ne pas... L'aménagement, l'arrangement à la marge qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, dans le cas des thromboses, il y a eu récemment, là, AstraZeneca, qui est un des fabricants de vaccins, qui a décidé de retirer du marché son vaccin, et l'Agence européenne des médicaments qui, suite à la demande du fabricant, a validé le fait qu'il y a un retrait du marché du vaccin AstraZeneca. Pourquoi ? Parce que AstraZeneca a assumé le fait qu'il y avait des cas de thrombose, de coagulation grave au sein des métabolismes. Et cette alerte-là, on l'a eue dès les premiers mois de l'inoculation du vaccin AstraZeneca, en février ou en mars 2021. C'est arrivé par des autorités de pharmacovigilance autrichiennes, des pays nordiques, parce que les pays nordiques, Danemark, Suède, Finlande, partagent ensemble leur registre de pharmacovigilance. Et donc, en groupant les chiffres et les données, ça leur permet d'avoir des signaux qui apparaissent plus rapidement. Et donc, les alertes ont été faites, mais au niveau de la Commission européenne, enfin, au niveau, pardon, de l'Agence européenne des médicaments, ce qui a été décidé par le groupe de pharmacovigilance, c'est que, oui, effectivement, il y avait quelque chose, mais ce n'était pas assez grave pour remettre en question la balance bénéfice-risque et l'autorisation de mise sur le marché du vaccin. Et ce qui est décidé comme arrangement à la marge, pour prendre cet exemple concret, c'est que du coup, on demande aux fabricants de rajouter dans la notice du vaccin un avertissement que, pour certains publics, on peut avoir un problème qui peut se dérouler.
Charles-Maxence Layet, Ursula von der Leyen aurait dû être auditionnée par le Parlement européen ?
Elle a refusé. C'est-à-dire, là encore, on a... La commission, donc Michel, il y a eu une commission parlementaire, une commission spéciale sur la gestion du Covid qui a existé pendant un an et demi au sein du Parlement européen. Michel Rivasi était vice-président de la commission Covid. C'est le nom de code, hein, qu'il y avait en interne au sein du Parlement. Suite à ces alertes et suite à ces questions réitérées qui n'avaient pas de réponse satisfaisante de la part de la Commission, que ce soit sur les contrats ou que ce soit sur les SMS, parce qu'on a audition, il y a eu une audition de la Cour des comptes européenne sur le fameux rapport au sein de la Commission Covid. Et donc, les députés ont entendu noir sur blanc ce que disaient les auditeurs de la Cour des comptes et les personnes qui ont fait le rapport. Hein, et toutes les anomalies qu'il pouvait y avoir. Et les pistes d'amélioration aussi, hein, bien sûr. Et donc, il y a eu, les coordinateurs de la commission Covid, c'est-à-dire les représentants des différents groupes politiques, qui ont voté en majorité une audition de Ursula von der Leyen au sein du Parlement européen. Au niveau des pouvoirs, il faut que ça soit la présidente de la commission qui fasse la demande à Ursula pour que Ursula soit auditionnée. Et donc on est monté à la marche supérieure. Mais en fait, donc les présidents de groupes politiques ont donc invité Ursula à venir au sein du Parlement européen pour répondre aux questions. Et on doit être maintenant à 738 jours ou 849 jours où il n'y a pas eu de suite favorable donnée par la Commission.
Mais elle peut refuser.
Ah ben elle n'est jamais venue. Le Parlement n'a pas exercé son pouvoir d'obliger Ursula von der Leyen à venir s'expliquer sur le dossier. Et le Parlement n'a pas exercé ce pouvoir parce qu'il a choisi de ne pas le faire. Des députés ont demandé à le faire, la commission dédiée à la gestion du Covid a demandé à le faire, les coordinateurs représentant leur groupe politique ont demandé à le faire.
Mais ça ne suffit pas.
Les présidents de groupe ne l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'on, c'est pour ça que je vous dis qu'on est sur, une situation globale où les institutions européennes, en fait, il y a un échec des contre-pouvoirs qui se protègent les uns contre les autres. Et ceux qui ont le pouvoir de sanctionner ou ceux qui ont le pouvoir d'exiger, soit ne se saisissent pas de ce pouvoir, soit ne sanctionnent pas quand ça n'est pas respecté.
Donc si les présidents de groupe au Parlement européen avaient demandé à Ursula von der Leyen de venir s'expliquer sur le troisième contrat Pfizer, elle aurait dû, elle aurait été obligée
Exactement,
de le faire.
Oui.
Et aujourd'hui, on est toujours en attente de cette demande.
Exactement.
Qui peut...
L'invitation n'est pas partie. Et le corollaire de ça, c'est pour ça que j'ai insisté sur la séparation des pouvoirs quand je vous parlais des trois institutions, Conseil européen, Commission et Parlement, c'est qu'il y a en fait une quatrième donnée qui a émergé. C'est ce qu'on peut détecter si on fait une analyse de la sociologie politique et des organisations de ce qui se déroule, c'est les groupes politiques. L'influence des groupes politiques n'a pas été anticipée par les traités, et ce qui fait que si vous avez quelqu'un du PPE qui est à la tête de la Commission, quelqu'un du PPE qui est à la tête de la Cour des comptes européenne, quelqu'un du PPE qui est à la tête du Parlement européen, eh ben, ça devient compliqué de prendre des décisions qui pourraient nuire à des représentants de vos forces politiques. Vous voyez, un truc qu'il faut se rappeler, c'est qu'Ursula a été mal élue. Hein. Ursula von der Leyen, en juillet 2019, quand elle est adoptée ou votée par une majorité de députés européens pour être présidente de la Commission, elle ne reçoit que... La majorité, elle est à 375 voix, puisqu'à l'époque on est avec... ou 376 voix, puisqu'à l'époque on est avec 750 députés, c'est avant le Brexit, et elle ne récolte que 381 voix. Elle récolte 6 voix de plus ou 5 voix de plus que nécessaire pour avoir sa majorité et être élu. C'est moins que Juncker en 2014 qui a eu 444 voix, c'est même moins que Barroso qui, pour sa deuxième candidature à la tête de la Commission européenne en 2009, avait eu 382 voix. Donc Ursula, c'est la plus mal élue des présidents de la Commission qu'il y a eu dans les 15 dernières années au niveau des institutions européennes.
Dernière question, se représentera-t-elle ?
Alors, elle a lancé des ballons d'essai en mars 2023 pour prendre la tête de l'OTAN. Ça a été dit dans la presse, mais ça fait partie des signaux faibles qui ont été rapidement évacués. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un candidat pour aller être secrétaire général de l'OTAN, qui est plutôt néerlandais, de mémoire, c'est Mark Rutte, l'ancien Premier ministre, ou en tout cas le présent futur ancien Premier ministre des Pays-Bas, sachant qu'il y a une coalition avec l'extrême droite là, qui vient d'être annoncée au sein des Pays-Bas. Et le plan B, pour Ursula, si elle est disqualifiée ou s'il est moralement impossible, elle est cramée pour être à la tête de la Commission européenne pour un second tour, eh bien, y a un plan B qui est celui, le fait qu'elle prenne la tête de l'OTAN, au même titre qu'elle a été ministre de la Défense en Allemagne avant d'être exfiltrée, vu qu'elle avait des problèmes de SMS qui avaient disparu et de conflits d'intérêts dans les contrats qu'elle avait passés en matière d'armement.
Déjà à l'époque.
Exactement.
Merci Charles-Maxence Laillet. Je rappelle que vous êtes ancien assistant de Michel Rivasi, qui nous a quittés en novembre dernier. Vous étiez au Parlement européen, vous êtes journaliste d'investigation indépendant, spécialiste des questions scientifiques, de santé et d'environnement.